RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui dans l'océan Indien où un petit peuple attend depuis 50 ans de retrouver ses terres. Ce sont les Chagossiens, victimes de la guerre froide, déportés dans les années 1960 et 1970 à Maurice et aux Seychelles. Ils sont bannis de leur archipel des Chagos parce que c'est là qu'est installée la base militaire américaine de Diego Garcia. Les exilés du Chagos, les dessous des cartes de cette tragédie, c'est un grand reportage signé Abdoulaye Rally.
Seigneur, notre Père, souviens-toi de chacun de nous ici présents. Nous savons que nous pouvons toujours compter sur ton amour. Nous voulons te dire merci pour Lisette, merci pour ce qu'elle a vécu, merci pour ce qu'elle est pour tout un chacun.
Une autre Chagossienne vient de tomber. Lisette Talat avait 70 ans. Symbole de la lutte des exilés, elle avait 22 ans quand les Britanniques expulsaient les habitants de l'archipel des Chagos, parce que leur terre était au centre d'un des plus grands chantiers militaires américains, devenu la base de Diego Garcia. L'archipel a été vidé, verrouillé et interdit à sa population autochtone, expulsée à Maurice et aux Seychelles. Ceux qui portaient en eux la mémoire de leurs îles paisibles et ensuite l'horreur du déracinement tombent aujourd'hui, l'un après l'autre. Le père Gérard Mangelard a célébré bien des messes funéraires de Chagossiens consommés par le chagrin.
Son désir, c'était un jour de mourir sur sa terre, mais elle n'a pas pu. Combien de Chagossiens encore vont mourir comme ça et ne pas retrouver leur terre? Et ce combat avec elle ne se termine pas avec sa mort. Au contraire, ce combat continue avec les autres qui sont là.
Mon papa est né là-bas, mon grand-père est né là-bas, mon grand-mère est né là-bas, mon maman est là-bas.
On manquait de rien, donc on n'achetait rien.
Je pensais qu'on retrouverait encore une fois nos belles plages et notre joli océan où nous sommes nés.
Ils étaient 2000 habitants à mener une vie tranquille sur les Chagos. Ils vivaient de la pêche et des plantations de noix de coco. Mais leur archipel de 65 îlots avait une qualité de trop, sa situation stratégique au plan militaire. En 1965, les Chagossiens sont tous des sujets de la reine d'Angleterre, comme les habitants de Maurice et des Seychelles. Le 5 novembre de cette année-là, le gouvernement d'Harold Wilson utilise un « Order in Council », en d'autres mots, un décret royal pour secrètement expulser les Chagossiens. Cette partie de l'histoire est aujourd'hui documentée grâce à des mémos déclassifiés. Ces documents témoignent des faits troublants, d'une machination des dirigeants anglo-américains pour cacher au Parlement britannique, au Congrès américain et aux Nations Unies l'existence d'une population indigène sur l'archipel. Une fiction avait été mise en place pour tromper le monde. Pooja Bisnott Singh, juriste international britannique, a parcouru ces mémos.
Toute personne qui va lire ces documents va découvrir que la Grande-Bretagne était parfaitement consciente que ce qu'elle faisait était illégal. Elle le savait. Et vous pouvez voir que les Britanniques s'exprimaient sur le sujet. Mais ils ont inventé une histoire pour éviter les Nations Unies.
D'autres mémos révéleront le dédain affiché par les Britanniques envers ses habitants, des habitants qu'ils qualifiaient de Tarzan, de sauvages dont on ne doit plus voir les traces de pieds sur les plages de Diego Garcia. La déportation a duré de 1965 à 1973. Les Américains voulaient que l'archipel soit, selon leurs propres mots, nettoyé et désinfecté. Les documents déclassifiés font aussi état de l'exécution d'un millier de chiens sous les yeux de Chagossiens terrorisés. Mais ni ces révélations, ni ensuite le fracassant verdict de la justice britannique du 3 novembre 2000, qui déclara illégale la déportation des Chagossiens, ne changeront le sort des exilés. Pour leur avocat, Robin Mardemoutou, les grands de ce monde continuent à dicter leurs lois.
C'est une des injustices de ce monde, je sais qu'il y en a beaucoup, dont on ne parle pas, mais vous savez, les Chagossiens sont peu nombreux, peut-être 300 natifs vivant encore, 3-4 000 enfants. Oui, les petits-enfants, ils sont la priorité de personne, sauf nous. On risque d'avoir tout un peuple qui soit extinct. Ce serait dommage si le dernier natif chagossien meurt sans avoir pu retourner dans son île.
Est-ce que l'archipel est habitable selon vous?
Absolument, mais les Américains y vivent. Il y a plusieurs milliers de soldats américains qui vivent sur l'archipel.
Ce sont des militaires.
Ben oui, ils vivent très confortablement, ils font des fêtes. Et ils reçoivent leurs copines, leurs femmes, leurs parents en vacances. Ils vont faire des fêtes sur les îles avoisinantes, mais c'est un paradis terrestre, le Chagos. Bien sûr, il y a un minimum de réhabilitation à faire. Il n'y a aucune raison pourquoi la vie ne serait pas possible là-bas.
Là-bas, que seulement une centaine de Chagossiens pourront retrouver pendant la première semaine d'avril 2006. Blâmé par sa propre cour de justice, Londres finit par accepter d'organiser une visite de 3 jours pour une centaine de Chagossiens, le seul geste humanitaire en 50 ans. Le père Robert Mangelard était de ce voyage.
Quand le bateau est arrivé, on a commencé à percevoir les îles. Et là, il y a eu une grande émotion parce qu'ils se sont rappelés de ceux qui, quand on les a déracinés, c'était trop dur pour eux, ils se sont jetés à la mer. On s'est arrêté, on a prié, on a fait mémoire de ces personnes-là. Ce moment-là, je ne vais pas oublier.
Sur place, ils découvrent la nostalgie d'une époque paisible et les ravages du temps sur les quartiers de leur jeunesse.
Quand on a débarqué sur ces îles-là, là j'ai compris tout ce que c'est que la détresse humaine. Hein. Une île boisée complètement, hein, c'était vraiment l'abandon, avec le lieu ou l'hôpital où certains ont pris naissance là. L'église sans toit et abandonnée.
400 canons, 300 rives verts, 400 parons, 20 bas de la ville de bas. Tout l'été, il y a fait moins 500 dans le dire. Quoi, ça va, qu'à bon. Quand ça va, qu'à bon, vini, pas qu'un an à se tirer.
Pendant que les habitations des Chagossiens subissaient les outrages du temps, une autre partie de l'île était un chantier militaire pour devenir l'une des plus impressionnantes bases aéronavales américaines. Claude Wongso, ingénieur en bâtiment, est parmi les rares Mauriciens à avoir été recruté pour travailler sur l'île. Il se souvient de l'organisation que les Américains avaient mise en place sur cette terre qui ressemble à un fer à cheval, sur la partie ouest, la base militaire, des résidences, des restaurants, des attractions et un lieu baptisé Splendidville. Et puis sur la partie est, administrée par les Britanniques, un lieu désert, abandonné. Quant à la base militaire, en 1982 déjà, c'était quelque chose. Claude Wongso.
On faisait la construction d'une base. Par exemple, je me rappelle bien, la piste d'atterrissage faisait 3 km de long. C'était à partir de là que tout s'était fait. Un système de télécommunication ultra sophistiqué. Et aussi tout le support, parce que c'était un support d'une base navale. Le fer à cheval, comme vous savez, à l'intérieur de ce U se trouve le lagon. Et c'est là que les navires viennent se protéger à l'intérieur.
Et il y avait combien de militaires américains sur cette base à ce moment-là?
Entre 6 000 et 7 000. Hein, il y avait beaucoup de militaires qui étaient basés sur l'île. Et puis nous étions environ 2 000 civils. On était pour la construction, une bonne partie d'entre nous. Mais aussi il y avait des Philippinos qui était sur l'île pour le support pour les militaires américains.
Pas un seul natif de l'archipel n'est autorisé sur cette terre par les Américains. Une injustice de plus que dénonce Olivier Bancoult. Cet électricien lutte depuis 40 ans sur tous les fronts pour le retour des Chagossiens sur leur terre. Il est le leader du groupe réfugiés Chagos, le mouvement qui, grâce à ses actions en justice, a aidé à médiatiser la cause chagossienne. Olivier Bancoult est né dans l'archipel en 1964.
Moi, je suis né à Péroche-Banos. Je peux vous dire que la distance de Diego Garcia à Péroche-Banos, c'est plus que 140 000. Malgré la distance qui sépare Diego Garcia à Péroche-Banos, toute la population a été refoulée avec la base militaire. On nous a expulsés de notre terre natale pour construire un instrument de guerre. Nous, ce que nous avons dit, ben, pourquoi pas donner la chance aux Chagossiens? Parce que partout où il y a la base militaire américaine dans le monde, il y a cette cohabitation avec les gens, comme à Honolulu, comme à Okinawa, il y a cette coexistence. Mais sauf à Diego Garcia, là, il y a des étrangers qui viennent, qui travaillent chez Diego Garcia, comme des Philippinos, Sri Lankais et Singapouriens, mais pas des Chagossiens. C'est ça l'injustice.
Les Chagossiens, à vrai dire, sont victimes de la guerre froide. c'est pour contrer la menace soviétique que les États-Unis s'implantent durablement dans l'océan Indien. Un choix géostratégique, bien pensé et fortement mis à l'épreuve par le Pentagone depuis la première guerre du Golfe en 1990. Les Chagos représentent un lieu idéal parce qu'ils sont à mi-chemin entre l'Afrique et l'Asie. Shafiq Osman, géopolitologue.
Le Sahel, évidemment, et ça va de Durban à Perth et Diego Garcia, effectivement, est positionné au beau milieu de l'océan, donc c'est hyper stratégique et il n'y avait pas de meilleur emplacement si on veut contrôler toute cette région.
Une région convoitée aujourd'hui par d'autres puissances, la Chine et l'Inde. Cette histoire cache une autre page sombre de l'ère coloniale que rappelle l'État mauricien à chaque Assemblée générale des Nations Unies. De tout temps, Maurice a accusé la Grande-Bretagne d'avoir illégalement détaché l'archipel des Chagos de son territoire. L'historien Jocelyn Chanlao soutient que Londres a exercé un chantage éhonté sur la délégation politique mauricienne emmenée par celui qui allait devenir le premier ministre de l'île Maurice indépendante, Sir Siusaga Ramgoolam. C'est Harold Wilson lui-même qui menait ces négociations en septembre 1965.
C'est une rencontre entre le premier ministre de l'Angleterre à Downing Street et le premier de Maurice, où Wilson lui fait comprendre entre autres que vous n'avez pas beaucoup d'alternatives. Soit vous retournez à Maurice sans l'indépendance et nous prenons les Chagos par un Northern Council de toute façon, ou vous retournez à Maurice avec l'indépendance et nous avons les Chagos avec votre accord. Et Ramgoolam le fait nous répondre. Les Chagos, c'est une question de détails.
Une question de détails devenue une affaire d'État. Un dossier qui empoisonne de temps en temps les relations entre Port-Louis et Londres. Au point qu'un jour, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Arvin Boulel, traitant en public Londres de perfide Albion.
Ce qui m'a offusqué le plus, c'est la façon dont le ministre des Affaires étrangères d'alors, M. David Miliband, avait traité le dossier. Il se met des cisanies entre la communauté chagossienne.
Une nouvelle manœuvre londonienne avait irrité le gouvernement mauricien. David Miliband, le chef de la diplomatie britannique, annonçait le 1er avril 2010 la décision de la Grande-Bretagne de créer la plus grande réserve marine au monde autour de l'archipel des Chagos. Ce qui déclenche une offensive mauricienne sans précédent qui porte l'affaire devant le Tribunal international du droit de la mer. Le verdict tombe 5 ans plus tard, le 18 mars 2015. Ce tribunal donne raison à Maurice et déclare illégale la décision britannique. C'est la première fois qu'une juridiction internationale se prononce sur la question du détachement des Chagos. Une victoire majeure pour le gouvernement mauricien qui enfonce le clou et enclenche les procédures pour porter le dossier cette fois devant le Tribunal international de justice. Pour Milan Mitarban, juriste et ancien ambassadeur de Maurice aux Nations Unies, ce contentieux est maintenant devenu sérieux et gênant pour Londres et Washington.
Les gouvernements britanniques et américains ont pris acte de l'arrêt du tribunal sur le droit de la mer et ils sont conscients du fait que la Cour internationale pourrait donner un avis qui n'est pas favorable aux Britanniques ou aux Américains.
Le dossier chagossien est dirigé par le Premier ministre mauricien. Sir Anirudh Jugnauth, réputé pour son franc-parler, a présenté au Parlement en mai dernier sa décision.
C'est clair qu'ils n'avaient aucune intention de nous rendre les Chagos. Je sais que la Cour internationale n'émettra pas un jugement contraignant, mais nous l'utiliserons comme un instrument dans toutes les instances et dans tous les pays. Et même l'ONU va les blâmer, parce qu'ils ne sont pas honnêtes.
Le Premier ministre mauricien tente de mobiliser tous les pays amis à cette cause. Il a écrit à 154 États pour obtenir leur soutien aux Nations Unies. Son conseiller Jean-François Chaumière résume la position de Maurice sur ce bras de fer.
Ce qui est primordial en ce moment pour le gouvernement mauricien, que notre souveraineté soit reconnue. Ce qui est important, c'est que l'île Maurice récupère en son sein une partie de son territoire.
Et ensuite ?
L'avenir nous le dira, mais pour le moment, le combat prioritaire pour nous, c'est que la Grande-Bretagne vienne avec un calendrier, une date précise, pour le retour de l'archipel des Chagos sous notre contrôle.
Donc vous ne demanderez pas le départ des,
les Américains dans l'éventualité d'une reconnaissance de la Cour internationale de justice ou d'autres instances de la souveraineté de Maurice sur les Chagos.
Cela n'a jamais été le cas.
Elisabeth Molaren, Elisabeth Molaren, Elisabeth Molaren, moi me connais.
La décision de recourir à la Cour internationale de justice a jeté un coup de froid diplomatique sans précédent entre Londres et Port-Louis. La preuve est ce communiqué anglo-américain, inédit dans l'histoire de l'affaire chagossienne. Le communiqué rappelle d'abord la position historique de Londres, que les Chagos seront restitués à Maurice quand l'Occident n'en aura plus besoin pour sa défense. Puis le même communiqué ajoute cette phrase. Référer cette affaire à la Cour internationale de justice causerait des préjudices durables aux relations de Maurice avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Un ton que Port lui qualifiera sans tarder de menaçant et d'inacceptable. Cette bataille vieille de 50 ans prend aujourd'hui une autre tournure. Chagos, exclusion d'un peuple victime de la guerre froide, un grand reportage d'Abdullah Erali à Port-Louis. Réalisation Mathieu Salabert.
Bonjour Abdullah Erali.
Bonjour Charlotte.
On découvre, grâce à votre reportage, cette tragédie du peuple chagossien qui est interdit d'entrer sur son propre territoire. Au moment de leur déportation, ils étaient 2000 environ. Alors combien sont-ils aujourd'hui? Où est-ce qu'ils vivent?
Alors ils sont regroupés essentiellement en Maurice. Une grande partie se trouve en Grande-Bretagne et une petite colonie aux Seychelles. Le groupe réfugié Chagos, qui est le principal mouvement chagossien, évalue environ 8000 le nombre de ses exilés. La majeure partie est à Maurice. Elle a vécu dans des conditions de pauvreté extrême pendant les premières années de la déportation. Une importante communauté chagossienne vit en Angleterre, où elle est très active d'ailleurs. Quand les chagossiens avaient été déportés à Maurice, ils avaient été parqués dans des endroits les plus pauvres et dans des conditions épouvantables. Beaucoup sont morts de maladies, de chagrin. Mais aujourd'hui, le sort de ces chagossiens s'est amélioré. Les deuxième et troisième générations ont grimpé un peu dans l'échelle sociale, mais ça reste tout de même une population très modeste.
Et est-ce qu'ils veulent tous rentrer, ces exilés du Chagos ?
Il ne reste pas beaucoup de natifs, d'ailleurs, de natifs de l'archipel, environ 200, 250 ou peut-être 300. Ceux-là veulent rentrer. Ils sont restés nostalgiques, leur cœur y est toujours attaché. Mais ce lien se dessert de génération en génération. Ils participent néanmoins et pleinement au mouvement de protestation, aux rencontres communautaires, et veulent découvrir leur archipel, l'archipel de leurs grands-parents. Mais de là à songer à s'y installer, ils veulent bien voir comment. D'ailleurs, ce dossier va évoluer. Et comment la vie sera organisée sur l'île si jamais l'histoire leur offre cette possibilité.
Et justement, pour ceux qui voudraient alors rentrer, est-ce que l'archipel aujourd'hui est habitable?
Écoutez, il y avait une vie sur l'île pendant au moins un siècle. Au moins quatre îles étaient habitées, dont Diego Garcia, où est implantée la base américaine. Ils sont en ce moment peut-être 10 000 Américains sur place. Toutes les habitations ont été abandonnées, c'est vrai. L'île devra être réhabilitée avant qu'on envisage le retour des Chagossiens. Un cabinet international avait évalué le coût du repeuplement des Chagos pour Londres à peu près 500 000 euros, donc pour 1500 habitants seulement. Oui, cela aura un coût. Ensuite, il y aura un modèle économique à trouver. Les Chagossiens, quand on discute avec eux ici, ils ont pour projet notamment de développer une industrie de pêche, des activités touristiques. Ce sont les grands attraits de l'archipel d'ailleurs.
Et les exilés du Chagos, votre grand reportage Abdullah Erali, à retrouver, à réécouter bien sûr sur RFI.fr.